juste complètement intégré au club, très gentil, discret. C'est hyper choquant.
36 heures après le drame, les proches de Samuel Paty pleurent leur ami, victime du fanatisme et de la haine. Ce professeur d'histoire géo a été décapité en pleine rue pour avoir défendu les valeurs de la République.
L'éducation nationale aurait-elle dû mieux le protéger? Quelles mesures adopter pour lutter contre la radicalisation? Emmanuel Macron réunit un conseil de défense aujourd'hui alors que des hommages se préparent dans toute la France.
Le couvre-feu sanitaire est entré en vigueur hier soir. Il touche un tiers des Français, dont les Parisiens. Enfin, pas tous. Certains profite en ce moment des joies de l'Atlantique et des soirées jusqu'au bout de la nuit.
Et puis, les bouquetins des Pyrénées, ils avaient disparu, les voilà de retour.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
36 heures après l'attentat, la France est encore sonnée, abasourdie par la violence de l'attaque.
De cet assassinat en pleine rue d'un professeur d'histoire-géographie décapité par un terroriste pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. 36 heures après ce drame, certains réalistes réalisent tout juste. C'est le cas notamment à Conflans-Sainte-Honorine, parmi les proches de Samuel Paty, ceux qui côtoyaient cet enseignant tous les jours. Nicolas Feldman s'est rendu dans le club de tennis que fréquentait le professeur.
On a vu le prénom et la première lettre du nom de famille de Samuel, du coup, puis on a fait tout de suite le rapprochement, quoi.
Le soir du drame, Sébastien n'a aucun doute. Ce Samuel P. n'est autre que son ancien élève de tennis, 3 ans que l'homme fréquente le club. Il y était encore attendu peu avant l'attentat.
Il avait réservé un cours, donc vendredi soir, avec quelqu'un pour jouer en loisir. Finalement, cette personne l'a jamais vu arriver. Et puis donc, moi, il m'a appelé 2 fois pour me dire que, voilà, il y avait eu des problèmes, machin. Et il disait, par contre, j'ai pas eu Samuel au téléphone. Je vois qu'il y a un Samuel à la télé. Il a vite fait le rapprochement. Au final, voilà, il devait jouer tous les deux et... Il n'est jamais venu au club, quoi. Il n'est jamais arrivé, du coup.
Dans le club, le nom de Samuel Paty est au centre de toutes les conversations. Christine, la trésorière, se souvient d'un homme réservé, bien loin de toute polémique.
Il était juste complètement intégré au club, très gentil, discret. C'est hyper choquant, quoi. Je veux dire, les gens en ont parlé et voilà, quoi. Mais ils sont abattus, tout ce que vous voulez, quoi.
Et c'est en concertation avec tous les adhérents que le club compte envoyer un message de soutien à la famille.
Reportage de Nicolas Feldman. L'enquête, elle, se poursuit. 10 personnes ce matin sont en garde à vue. Il y a parmi elles les proches du terroriste, mais aussi un prédicateur radicalisé et un parent d'élève.
Oui, le père d'une collégienne soi-disant choquée par le cours d'éducation civique en question. Cet homme a porté plainte, publié une vidéo, mais Guillaume Biais, leur version des faits est remise en cause par l'enquête.
La collégienne n'a jamais assisté à ce cours sur la liberté d'expression. D'après nos informations, elle n'était pas dans la salle le jour où le professeur d'histoire a montré les caricatures de Mahomet. C'est l'enseignant lui-même qui l'a dit aux policiers quand il a été entendu au début de la semaine, après la plainte du père de la jeune fille. Un père qui a multiplié les appels contre ce professeur par des vidéos sur internet, par une plainte et par des pressions sur la principale du collège, avec le renfort d'un activiste islamiste. Dans leur vidéo, ces 2 hommes ont qualifié l'enseignant de voyou et réclamé ouvertement son départ. L'un de ces enregistrements a été directement vu et relayé par le terroriste. Voilà pourquoi ces agitateurs, l'islamiste et le père de la collégienne, sont toujours en garde à vue. Et contrairement à ce qu'il prétend, sa fille n'a pas été renvoyée à cause de cette affaire. C'est en fait pour des problèmes de comportement qu'elle a été exclue pendant 2 jours.
Guillaume Biais du service police-justice d'Europe 1. Samuel Paty avait donc reçu des menaces depuis ce cours d'éducation civique du 5 octobre. Il en avait parlé à la principale du collège, mais était-il suffisamment entouré et protégé depuis? Oui, a répondu hier Jean-Michel Blanquer.
Dès que le professeur a eu les premiers problèmes avec les parents d'élèves, il y a eu d'abord la principale du collège qui a fait son travail, qui était auprès de ce professeur. Et puis ce qu'on appelle maintenant les équipes valeurs de la République, c'est-à-dire des personnes au rectorat qui viennent en appui du collège pour aider l'enseignant. C'est ce qui s'est passé. À ce stade, il n'y a pas de menace de mort contre lui. À ma connaissance, lui-même n'a pas senti qu'il y avait une menace. Et encore une fois, il a été accompagné. Et lui-même, d'ailleurs, semble-t-il, dans les derniers jours, considérait que cette affaire maintenant devait revenir au calme.
Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, invité du 20h de France 2 hier soir.
Oui, Jean-Michel Blanquer assistera cet après-midi au conseil de défense convoqué par Emmanuel Macron à l'Élysée. Il sera question, entre autres, de la sécurité aux abords des écoles.
Et de la protection donc des enseignants. Ce matin, dans le JDD, le Premier ministre Jean Castex évoque une stratégie de riposte encore plus ferme et encore plus rapide dès lors qu'un prof subit des menaces.
Et on parlera encore de cette question à 8h15, puisque je reçois Nathalie Elimas, la secrétaire d'État à l'éducation prioritaire. C'est la première prise de parole du gouvernement sur Europe 1 depuis ce drame il y a 36 heures. Grand rendez-vous tout à l'heure aussi sur Europe 1 avec Manuel Valls, Valérie Pécresse et d'autres invités. Mickaël Darmon nous en parle juste après ce journal.
Mercredi prochain, la France entière saluera la mémoire de Samuel Paty au cours d'un hommage national. Hommage organisé en coordination avec la famille et après des dizaines de rassemblements, car depuis hier, des milliers d'anonymes se retrouvent un peu partout en France pour honorer la carrière de cet enseignant irréprochable, pour réaffirmer également leur attachement aux valeurs de la République.
Mais hier soir, comme un symbole, c'est à Conflans-Sainte-Honorine, qu'une veillée a eu lieu en présence notamment de Gaël et de ses deux enfants.
Je trouve ça inadmissible que des gens remettent en question nos libertés, alors que nos aïeux se sont battus et nous, c'est à nous de faire notre travail pour nos enfants.
Chérie, est-ce que tu as compris ce qui s'était passé? Qu'est-ce que toi t'en penses?
Moi, je pense que c'est clairement injuste de tuer une personne alors qu'elle nous a rien fait.
C'est encore un peu flou, heureusement à leur âge ça reste encore un peu vague, heureusement. Mais voilà, faut que ça change. De toute façon, faut que les gens de ce pays, les citoyens de ce pays se réveillent et que tout le monde se soulève contre ça.
Et de grands rassemblements sont prévus aujourd'hui à 15h dans plusieurs villes de France, notamment à Paris, place de la République.
7h06, vous restez avec nous dans un instant, la suite du journal. Le couvre-feu est entré en vigueur hier soir à 21h pour 20 millions de Français. Certains ont décidé de fuir, mais oui, tout de suite. Du journal de Marguerite Lefebvre, et c'est un peu comme dans les fictions. Soudain, des villes entières se sont vidées. 21h hier soir, Paris, mais aussi Toulouse, Lyon ou Grenoble ont basculé dans le couvre-feu.
Pendant au moins 4 semaines, 20 millions de Français n'auront plus le droit de sortir de chez eux entre 21h et 6h du matin. Certains ont tout de même trouvé la solution. Ils ont décidé de partir loin des zones écarlates. À la Baule, Charles Guyard a vu débarquer des Parisiens en quête de liberté.
Là, on vient profiter de la vie un petit peu plus libre qu'à Paris.
Elle a quitté Paris où elle habite dès vendredi soir, direction La Baule. Ici, c'est la zone libre pour beaucoup de Franciliens qui, comme Marine, vont donc pouvoir profiter de soirées à rallonge, comprendre qu'ils ne s'arrêtent pas à 21h. Laurent et Paul, également parisiens, apprécient.
On pourra aller au resto après 21h, oui, ça c'est sûr. Et au cinéma?
On a le droit, donc oui, on va profiter de pouvoir faire un resto avant de plus pouvoir en faire avant longtemps.
Restaurant, cinéma, des activités désormais impossibles le soir dans la capitale et 8 autres métropoles françaises. Pour Sophia, c'est simple, il fallait partir au plus vite.
Paris, c'est beau, voilà, il y a tout ce qu'il faut, mais après, il y a le couvre-feu, donc voilà. Je fuis Paris, oui, c'est une bouffée d'air.
Cette bouffée d'air, il faudra néanmoins la saisir à travers le masque, hein, puisque le port de celui-ci est désormais obligatoire partout à La Baule et non plus seulement dans les zones les plus fréquentées. C'est à ce prix que le maire, Franck Louvrier, espère que sa ville restera épargnée.
C'est important qu'on puisse s'entourer du maximum de prudence en matière sanitaire pour continuer à accueillir sans être imposé de mettre en place un couvre-feu ou de repartir sur un confinement.
Et la situation étant surveillée quotidiennement, les autorités locales n'excluent pas le durcissement des mesures sanitaires en cas de dégradation. La Baule, Charles Guyard, Europe 1.
Et nous irons voir du côté de la métropole Aix-Marseille comment ça s'est passé ce premier soir de couvre-feu avec le préfet de police des Bouches-du-Rhône, Emmanuel Barbe, mon invité à 7h40.
C'est une tendance que changera peut-être le couvre-feu, mais ces derniers mois, vous passez l'essentiel de vos dimanches à la maison. Ce sont les professionnels des transports qui font cette observation. Le confinement est passé par là, on se déplace moins le dernier jour de la semaine. Aurélien Fleureau.
Moins 25% le dimanche, un déplacement sur 4 ne se fait plus depuis la rentrée. Une baisse spectaculaire qui concerne principalement l'Île-de-France et les grandes métropoles. Le samedi, le nombre de trajets effectués par les Français a diminué de 15%. C'est donc le week-end que les données de géolocalisation étudiées ont été les moins nombreuses, avec plusieurs raisons pour expliquer ce phénomène, selon David O'Neill, directeur des activités de Kizio.
C'était pas du tout le cas en mai-juin, où au contraire les week-ends avaient repris plus vite en termes de mobilité. On voit des phénomènes un peu de fond, on voit notamment le boom de tous les magasins d'ameublement après le confinement, donc il y a sans doute une tendance un peu structurante là-dessus, et puis il y a aussi le fait que les gens vont moins au cinéma, moins au restaurant, moins de loisirs, il y a aussi moins de fêtes de famille nombreuses qui génèrent aussi des déplacements, et donc tout ça fait qu'on se déplace moins le week-end.
Et de la même manière que pour les déplacements en semaine, entre février et septembre, Kizio a observé un retour à la normale dans les petites villes et en zone rurale, en tout cas au même niveau qu'avant le confinement.
Explication signée Aurélien Fleureau.
Les supporters préparaient une grande fête depuis des semaines, mais l'ambiance sera bien morose ce soir au stade Pierre-Mauroy de Lille.
Couvre-feu oblige, personne ne pourra assister au derby du Nord, au choc entre Lille et Lens. C'est du football bien sûr, et ce sont donc des supporters plus que déçus qu'a rencontré Lionel Gougelot.
Quand vous voyez le nombre d'années qu'on a passé en Ligue 2, c'est plus qu'un rendez-vous manqué. C'est une grande tristesse.
Après 5 ans d'attente, Michel, supporter du Racing Club de Lens depuis 47 ans, espérait retrouver l'ambiance du Derby du Nord. Finalement, ce soir, couvre-feu oblige, aucun spectateur dans les gradins du Grand Stade de Lille.
Des deux côtés, il y a de la frustration parce que eux comme nous, au final, on est privés de ce match.
Alors Nathan regardera le match avec des potes à la télé et avec aussi un vrai pincement au cœur.
Ça fait chier parce que du coup, on peut pas y être. Parce que Lens, ils sont en train de faire une super bonne saison. Au final, on pourra pas les accompagner. On espère qu'il y aura la victoire.
Les supporters lillois, eux, ont eu un petit lot de consolation. Hier, ils ont pu assister à l'entraînement des joueurs et les encourager pour ce duel nordiste. Mais ce soir, même les abords du stade Pierre Mauroy seront interdits d'accès pour Jérémy et les autres fans du LOSC.
Maintenant, il faut faire avec. On avait prévu beaucoup de choses et pouvoir pousser un peu notre équipe pour ce match-là. C'est que partie remise. On espère et en même temps, on n'espère pas trop que Lens se maintiendra pour un autre rendez-vous.
Mais avant cela, il y aura le match retour au stade Bollaert de Lens. Pas avant le printemps prochain. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et puis toujours en foot, hier soir, l'OM s'est rassuré en battant Bordeaux 3-1. Reims, en revanche, court toujours après sa première victoire de la saison. Les Rémois ont perdu hier face à Lorient.
Allez, un petit peu d'air frais en cette fin de journal.
Allons-y.
Allez, direction l'Ariège qui retrouve depuis quelques années le bouquetin des Pyrénées.
L'animal présent depuis 80 000 ans avait disparu au début du siècle, mais depuis 2014, il est peu à peu réintroduit. 10 bouquetins, par exemple, ont été lâchés la semaine dernière sous les yeux de notre correspondant Benjamin Peter.
On déverrouille le box, la porte s'ouvre et rapidement l'animal saute du camion et fait ses premiers pas dans la neige. Cette femelle et trois mâles ont ainsi été relâchés pour Julien Canet qui mène ce projet au parc naturel régional des Pyrénées. Cette espèce, très proche de celle qui évoluait ici, s'est vite adaptée.
Dans l'Ariège, on a lâché 95 bouquetins sans cela. La population a doublé quasiment en 6 ans. C'est un milieu qui nous convient parfaitement. Ici, on a tout ce qu'il faut pour le bouquetin. On a la pente, on a le rocher, on a le gîte et le couvert. On l'a bien vu, ils sont partis bien tranquillement, ils ont l'air en forme. Donc ça fait 80 000 ans, vous savez que le bouquetin est présent dans les Pyrénées. Il n'y a pas de raison qu'en 2020, il ne s'y plaise plus.
Le bouquetin est d'ailleurs représenté sur les parois de la grotte d'Ogneau, toute proche, qui date de 14 000 ans. C'est parce qu'il a été chassé pour sa viande que le bouquetin a ici disparu en 1910. Mais aujourd'hui, ce sont les chasseurs comme Jean-Luc Fernandez, qui préside la fédération ariégeoise, qui sont chargés de son suivi.
On compte les naissances au cours de nos randonnées l'été, au cours de nos balades aux champignons et tout. On voit des bouquetins, on le note, on fait une cartographie. Et donc aujourd'hui, même si on n'a pas été les seuls à l'origine de cette disparition, on est très fiers de pouvoir réintroduire cette espèce.
Et ces 10 nouveaux animaux devraient permettre de renforcer les noyaux existants alors que 29 naissances ont été enregistrées l'an dernier. Près de l'étang de l'Hers, en Ariège, Benjamin Péter, Europe 1.
Merci, c'était le journal de Marguerite Lefebvre.